l'université Paris-Panthéon-Assas. Vous êtes là ce soir pour nous présenter ce livre, Histoire mondiale des riches, avec ce sous-titre qui interpelle, on peut le dire, pourquoi ils sont le vrai pouvoir. Avant d'en parler plus concrètement, tout d'abord, c'est quoi être riche aujourd'hui, Fabrice Almeida?
Alors, ça dépend qui on interroge. Si on interroge Oxfam, c'est en général avoir plus de deux fois le salaire médian. Si on interroge François Hollande, c'est avoir plus de 4000 euros par mois. Si on se dit que c'est les 1% des Français qui ont les revenus les plus importants, ben c'est 9000 euros. Et puis si on se dit, comme moi, ben ce sont les gens qui arrivent à peser sur l'histoire mondiale, et bien à ce moment-là, c'est des revenus beaucoup plus élevés. En général, c'est des gens qui ont plusieurs centaines de millions, voire milliardaires et au-delà.
Parce que pour bien comprendre, ici, on ne parle pas des petits riches, on parle des riches, c'est ça?
Exactement, on parle des gens qui sont capables de vivre des revenus, des intérêts de leur capital.
Il y en a de plus en plus de ces ultra-riches, comment est-ce qu'on
les... Alors oui, sur le dernier demi-siècle, ils n'ont cessé d'augmenter et aujourd'hui, même encore, leur fortune s'accroît. Comment ça s'explique? Il y a la mondialisation, c'est-à-dire qu'en fait, des continents qui étaient laissés sur les marges de l'économie
mondiale... L'Asie, par exemple, j'imagine.
Voilà. L'Asie, avec notamment la Chine, qui était fermée, qui était un pays communiste, qui à partir des années 90 et 2000 s'est largement ouverte, eh bien, est devenu un des terrains majeurs de jeu des riches, puisqu'il y en a aujourd'hui plus de 900, et c'est aujourd'hui la Chine qui est le pays où il y a le plus de riches au monde.
Vous avez écrit, Fabrice Almeida, sur les serial killers, sur la propagande, sur Nelson Mandela. Pourquoi vous intéressez aujourd'hui à ces ultra-riches?
J'avais commencé à travailler sur la vie mondaine sous le nazisme il y a longtemps, c'était en 2005-2006, j'avais fait ce travail-là en Allemagne, et je m'étais rendu compte qu'il y avait des rapports très intrigants entre les hommes d'argent et les hommes de pouvoir, que c'était pas comme on le croyait des donneurs d'ordre, c'était pas non plus des gens qui obéissaient. Donc il y avait une relation qui était intéressante et je me suis dit mais comment ça se passe dans d'autres régimes? Et c'est comme ça que j'en suis venu à travailler sur la Russie, sur les États-Unis, sur l'Italie et puis à faire cette histoire mondiale.
Alors la grande question, Fawzi Almeida, pourquoi est-ce qu'ils nous fascinent, ces ultra-riches?
Souvent leur mode de vie est en avance sur le nôtre, donc en le regardant, on peut savoir ce qui va nous arriver. Par exemple, à la fin du 19e siècle, ils sont les premiers à avoir des chauffages centrales. Ensuite, ils vont être les premiers à avoir l'électricité. C'est comme ça qu'à Saint-Moritz, il y a un hôtel, qui est l'hôtel Kulm, qui va être le premier électrifié de Suisse. De toute la Suisse, c'est un hôtel pour riches qui est électrifié. C'est pareil, c'est cette station Saint-Maurice qui va être la première à avoir son télécabine. Et puis ensuite, on va se rendre compte que ce sont eux, pour eux, qu'on va créer les machines à laver. Dans l'entre-deux-guerres, c'est une entreprise allemande qui va créer les premiers modèles qui vont fonctionner. Pareil, on va créer pour eux les lave-vaisselles, les télévisions. Et petit à petit, ces objets, qui sont des objets pour riches, deviennent des objets très populaires, y compris la montre au poignet. La montre au poignet qui a été inventée pour un aviateur qui s'appelait Santos Dumont, qui était brésilien, qui vivait en France. Eh bien, c'est pour lui qu'on a créé cette montre qui ensuite est devenue un objet usuel pour la plupart des hommes.
Venons-en, Fabrice Almeida, ce sous-titre, pourquoi ils sont le vrai pouvoir, à vous entendre, à vous lire, les ultra-riches dominent le monde presque?
Alors en réalité, il y a une astuce, c'est que c'est pas des tyrans, c'est pas des monstres qui dominent physiquement tout le monde. Non, en
fait, c'est pas cette réunion d'ultra riches qui vont dire on va faire ça, on va peut-être lancer une pandémie telle que les complotistes pourraient l'imaginer.
Exactement, c'est pas ça du tout. Non, si j'ai dit qu'ils sont le vrai pouvoir, c'est parce que c'est dans leurs mains que repose l'investissement du monde et donc une bonne partie de notre avenir.
Ce sont eux qui façonnent. Il faut y voir une dérive malgré tout ou pas?
Disons que ça s'est accéléré parce que à la fin du 19e siècle, au moment où il se constitue, où se met en place ce système, qui fait qu'on va placer sur la tête de quelques individus qu'on considère comme particulièrement doués, particulièrement innovants ou forts ou intelligents, des gens comme Krupp, des gens comme Schneider, des gens comme Thyssen, comme Vickers en Angleterre, comme Rockefeller aux États-Unis, qui vont concentrer des fortunes et fabriquer à l'échelle mondiale des objets, eh bien ce système-là, il s'est un peu accéléré depuis un demi-siècle et on a un peu l'impression aujourd'hui qu'il atteint peut-être une limite.
Que serait la société sans les riches? Fabrice Almeida, est-ce qu'il se porterait mieux?
Il y a deux exemples dans l'histoire qui sont un peu douloureux.
Le communisme, j'imagine.
Voilà, exactement. L'Union soviétique, qui à partir de 1917 et jusqu'en 1990, jusqu'en 85 pour être très honnête, puisqu'après Gorbatchev autorise des coopératives privées, ce qui permettra d'avoir un premier millionnaire vers...
C'est 90, lui qui va ouvrir, hein, évidemment.
Voilà, qui s'appelle Artem Tarasyov. Mais si on, en dehors de lui, Il y a la Chine aussi, où on a supprimé à partir de 1949 tous les riches, et supprimé parfois physiquement, hein, faut le dire, même s'il y a eu beaucoup de rééducation, comme le pays aimait à le dire. Mais en fait, on ne vit pas très bien. C'est-à-dire qu'on a une économie qui a une productivité assez faible. On a beaucoup de mal à répartir justement les aliments. Donc ce sont des pays qui ont souffert de famine, et au sens presque d'ancien régime, hein, avec des millions de morts. Le grand bond en avant qui s'est traduit par une vingtaine de millions de morts en Chine, c'est des chiffres assez effrayants. Hein. Pareil pour les famines qu'il y a eu en Union soviétique, notamment en Ukraine, qui étaient organisées, mais qui étaient aussi le résultat de la désorganisation de ces pays.
Pour revenir sur ce titre, Fabrice Almeida, pourquoi ils sont le vrai pouvoir, j'aimerais vous parler de deux cas particuliers, celui de Donald Trump, ancien président américain, mais aussi celui de Silvio Berlusconi. Tous les deux ont décidé de s'impliquer véritablement politiquement. Est-ce qu'on a d'autres exemples comme ça de ces ultra-riches qui vont passer cette barrière de l'influence pour vraiment être au centre du système?
Oui, alors en fait, vous avez raison, c'est très rare. C'est-à-dire que la plupart du temps, les ultra-riches préfèrent essayer d'influencer, de négocier, discuter. Oui, voilà, parce que c'est pour les conditions de fonctionnement de leurs affaires. Parfois ils sont corrupteurs, hein. On se souvient que la famille Schuller puis Bettencourt a très largement arrosé des hommes politiques pour faciliter les choses, quoi. Et puis pour aider des amis, tout simplement, hein, aussi, il faut le dire, parce qu'ils avaient des amis qui étaient politiques, comme François Mitterrand notamment. Donc il y avait ce côté-là. Mais là, on a vraiment affaire à deux personnes qui se disent c'est moi qui y vais et je veux être leader. Trump est milliardaire.
Et mettre en application ma pensée politique.
Exactement.
Et ma façon de voir le monde.
Oui, mais en même temps, Berlusconi, c'est un peu étonnant parce qu'il vient du Parti Socialiste. Mm-hmm. Il était lié au Parti Socialiste de Bettino Craxi, donc il était plutôt considéré comme un acteur de gauche. On le fait venir en France, rappelez-vous, pour créer la 5e chaîne de télévision par François Mitterrand, parce qu'il est socialiste, parce qu'il est considéré comme un homme de gauche. Et vous savez bien qu'en 1994, quand il entre en politique en Italie, il le fait en se définissant comme homme de droite, en faisant une alliance avec Alleanza Nazionale, et qui était le parti post-parti fasciste, et donc aussi avec la Ligue Lombarde. Donc il est plutôt considéré comme de droite dans l'échiquier politique, avec cette idée qu'il veut arriver à une bipolarisation, et il veut que son courant soit le courant de droite par opposition à une force de gauche. Donc c'est très intéressant parce que Berlusconi, c'est l'homme le plus riche du pays. C'est très très rare que l'homme le plus riche du pays se décide à vouloir être l'homme politique en tête. Et ça va lui coûter cher parce que non seulement il avait déjà des procès comme homme d'affaires, mais comme homme politique, il y a tout un tas d'incompatibilités, donc ça engendre de nouvelles plaintes. Et au fond, son groupe s'en est plutôt mal sorti, et notamment parce qu'il n'y avait pas les outils politiques. Lui-même disait, je vais mettre en place un blind trust, c'est-à-dire une société qui va gérer mes affaires sans que moi je puisse intervenir en tant qu'homme politique dans les affaires de la société. Mais il n'y avait pas de précédent, donc ça fonctionne mal, c'est pas... Donc je crois que justement, ils sont des cas où ça montre qu'il faut qu'on mette en place des barrières éthiques.
J'allais vous en parler justement parce qu'on peut prendre un exemple plus dans l'actualité, plus actuel, celui du cas Bolloré, qui est évidemment le grand patron de Canal, qui a une véritable influence médiatique, voire même politique. On en a beaucoup parlé lors de la campagne présidentielle, notamment d'Éric Zemmour. Comment vous l'analysez, vous, ce cas Bolloré, surtout que quand on parle de ce vrai pouvoir, on peut penser directement à lui. En tout cas,
lui, ne veut pas s'impliquer directement en politique. Il a fait un coup qui est très comparable à celui que Murdoch a fait en créant Fox News. C'est-à-dire Fox News, rappelez-vous, en 1996, c'est l'idée qu'on va créer une chaîne qui ne juge pas nécessaire d'être équilibrée. Parce que dans le système américain, jusque-là, il y avait l'obligation pour les médias d'être équilibrés.
C'est ça.
Et là, pour la première fois, il y a une chaîne qui ne l'est pas.
Donc, qui est subjective.
C'est ce qu'il a fait avec CNews. Mais je pense qu'il y a à la fois la combinaison, et dans les deux cas, dans le cas Murdoch comme dans le cas Bolloré, il y a une combinaison à la fois de facteurs politiques et de facteurs économiques, parce que en fait, ce sont deux réussites économiques. C'est-à-dire Fox News va réussir à devenir à un moment donné la première chaîne d'information, ce qui fait pour le coup des recettes publicitaires, ce qui permet une rentabilité, ce qui permet de continuer. Et là, en l'occurrence, dans le cas de CNews, ça a permis d'exploser les audiences de cette chaîne qui auparavant avait beaucoup de mal à se positionner par rapport au numéro 1 du secteur qui est BFM Business.
Parlons d'actualité avec vous, Fabrice Almeida. Il nous reste quelques minutes. discute. Tout d'abord, cette lettre, la semaine dernière, lors du Forum de Davos, signée par plusieurs millionnaires provenant de 13 pays différents, qui appelle, je cite, les dirigeants mondiaux à mettre en place un impôt sur les plus fortunés, voire ces ultra-riches qui ont quasiment supplié les gouvernements à les taxer. Comment est-ce que vous l'analysez, vous ?
Oui, mais parce qu'il y a un paradoxe. La plupart des riches, dans l'histoire, se sont très fortement impliqués pour faire vivre leur pays. Dans la Première Guerre mondiale, les riches allemands, les riches français, non seulement ont payé l'impôt, le nouvel impôt sur le revenu qui n'existait pas. Pareil pour les riches américains, nouvel impôt sur le revenu, ils acceptent de le payer. Ils prennent des emprunts de guerre, ils mettent leur argent à risque pour l'État parce qu'ils savent que c'est essentiel, parce qu'ils vivent dans un pays, parce qu'ils vivent dans une patrie. Et aujourd'hui, au fond, les riches se rendent compte que les États n'osent pas taxer. Ils n'osent pas taxer parce qu'ils ont peur de la concurrence entre eux, ils ont peur du mouvement qui est possible. Donc ils font cet appel parce qu'ils se rendent compte qu'on est à un moment crucial de risque de déséquilibre du système.
Il y a des inégalités qui se creusent de plus en plus.
Oui, mais c'est même le système en lui-même qui est menacé. C'est-à-dire que si les dettes ne sont pas réglées, s'il y a des faillites d'État, eh bien, on va se retrouver à avoir une situation économique qui va être absolument catastrophique. Donc, ils savent très bien qu'en les taxant, on peut réduire les dettes et rendre les choses supportables pour l'ensemble de la population. Donc je crois que c'est dans ce mouvement-là qu'ils s'inscrivent. Et très souvent, d'ailleurs, les riches ont un sens de l'intérêt collectif. Ils ont été parmi les premiers à appeler justement à jouer contre le réchauffement climatique. Et ils l'ont fait même contre Donald Trump. Hein. Les riches californiens, notamment, ont continué de dénoncer l'accroissement du CO2, alors même que le président américain piétinait les accords de Paris.
Oui, donc, on sortait carrément. Ouais.
Voilà, donc on est dans une situation où très souvent, une partie des très grandes fortunes ont conscience des enjeux internationaux et sont prêts à contribuer pour améliorer la situation.
Il y a aussi une valeur symbolique aussi, puisqu'on parle de plus en plus d'un fossé qui se creuse entre les gens normaux, comme vous, comme moi, et puis ces ultra-riches qui sembleraient vivre presque sur notre planète. Une question très simple, parce que je parlais tout à l'heure de fascination envers les super-riches. On regarde tous attentivement le classement de qui est le plus riche au monde, qui a sa fortune qui a baissé, qui a augmenté. Souvent, cette fascination peut-être se transformer en haine. Ma question est très simple. Pourquoi certaines personnes, pourquoi les gens détestent les super-riches ?
Alors, ce n'est pas tous les gens, parce que évidemment, il y a quantité de personnes qui savent qu'ils travaillent dans un groupe ou un autre, qui ont du respect pour leur employeur, tout simplement, qui parfois même ont de l'affection pour la personne qu'ils côtoient quotidiennement. Hein, donc, il faut aussi prendre en compte ça. En fait, il y a quand même, quand on parle de cette haine, on parle plus d'un phénomène de ressentiment, de jalousie sociale. Ressentiment parce qu'au fond, nos sociétés promettent le bonheur à tout le monde. Et en réalité, on ne parvient jamais au bonheur parfait. Donc quand on a l'impression que quelqu'un y arrive, ou en tout cas est dans une situation qui est meilleure, il y a cette espèce de jalousie. Mais là où ça devient plus préoccupant, c'est quand un parti politique s'empare de cela. Ça a été le cas notamment des partis communistes, qui ont beaucoup joué sur la question du ressentiment, de la haine sociale. Et aujourd'hui, on voit que les partis écologistes n'hésitent pas parfois à jouer de cette fibre un peu populiste pour provoquer un surcroît de tension sociale et de revendication à l'égard des riches. Or, ce qui est paradoxal, c'est que très souvent, justement, une bonne partie des riches font partie de ceux qui, avec la responsabilité sociale des entreprises, essayent de faire avancer la question écologique dans notre société. Donc, on est dans une société un peu paradoxale, en fait, où il y a de la haine et de l'amour, de la fascination, de la jalousie, du ressentiment, mais parfois quand même un peu de solidarité.
En tout cas, un livre passionnant. Je pense qu'il nous faudrait 2-3 heures ici, rien que deux, pour le passer en revue. Hein. Histoire mondiale des riches, pourquoi ils sont le vrai pouvoir ? Point d'interrogation. Non, il n'y en a pas, évidemment. J'encourage évidemment tous nos téléspectateurs à se procurer ce livre et à se faire leur propre idée. Merci beaucoup, Fabrice Almeida. C'était un plaisir de vous recevoir ce soir.
Merci à vous, Jim.
Une courte